France Inter.
Allez, c'est l'heure de l'apéro, c'est même l'happy hour, et ça va être très happy, en tout cas moi je le suis, car m'attend dans mon bistrot, Bérénice Béjot. Bonjour Bérénice Béjot.
Bien, bien.
Mais bien et vous?
Ça va, un peu fatiguée là.
Ah ouais?
Le marathon aujourd'hui là.
Bah il paraît. Alto cadence infernale dans les promos de cinéma, enfin.
Oui, vraiment. Allez, on monte à un syndicat.
Bah alors là, comptez sur moi.
Ah bah, comptez sur moi aussi.
J'ai frappé à la bonne porte.
Très bien. On va bien s'amuser alors.
Allez, syndicalisme cinéma. On y va, c'est parti.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Bérénice Béjot, vous étiez sur les bancs de l'école avec Thierry Henry, il paraît, c'est vrai ça?
J'adore.
Ouais. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'il sait que quand il y a un France-Argentine, vous êtes pour l'Argentine?
Je ne sais même pas s'il se souvient de moi.
Ah bon?
Bah ouais, parce qu'en fait, il a un an de moins que moi. Mmh. Et ma sœur était très fouteuse.
Ok.
Ouais, donc ça dragouillait pas mal. Moi, j'étais un peu snob. Hein, voilà. J'aimerais bien le rencontrer et lui dire, mais Thierry, tu te souviens, les essarts le roi, le bus, les filles qui étaient là, waouh, wow, ouais. Les fouteux arrivent.
C'est vrai?
Ouais, c'était comme ça.
C'était à Rambouillet, ça.
Ouais, ouais, ouais. Moi, ouais. J'ai grandi à Auffargis, dans un petit village en Yvelines. Et j'allais au collège aux essarts le roi.
Bah voilà la rencontre qu'il faut organiser.
Bah grave.
Mais évidemment.
Qui va faire ça?
Bah oui. Et le film dont on va parler ce soir, Mexico 86, je voudrais commencer par là. 86, Coupe du monde de foot au Mexique.
D'où le lien. Bah évidemment.
C'est en fond, c'est pas le sujet principal, je vous avoue, mais 86, Mexico. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'équipe belge réalise un exploit demi-finale.
Ah oui,
ah oui. Il ne vous a pas dit ça, le réalisateur?
Oh, il me l'a peut-être dit. Mmh. Il me l'a peut-être dit, mais la charge mentale, hein, vous savez ce que c'est.
Parce que César Diaz, qui est guatémaltèque, est naturalisé belge. Donc oui. Sûrement que... voilà. Bon, je vous dis ça comme ça, demi-finale, éliminé par la France en demi-finale.
Ah, d'accord.
Vous voyez? Et oui, comme ah, oui. Quoi... On va vite passer au film, hein, sinon ça va me... Bérénice Béjot, ce film qui s'appelle Mexico 86, donc de César Diaz, vous y incarnez Maria, une activiste révolutionnaire guatémaltèque qui est exilée à Mexico, où elle poursuit son action clandestine contre la dictature au Guatemala. Et quand son fils de 10 ans revient vivre avec elle, il est interprété par Matteo Labbé, son organisation va lui demander de mettre son enfant à l'abri, à Cuba. Donc, Maria, elle doit choisir entre son fils et ses idéaux. Et c'est là que le sujet du film, c'est d'abord le choix cornélien de cette mère, Maria, et à l'arrière-plan, des faits réels, politiques, historiques. Est-ce que vous pourriez nous dresser ce tableau? Qu'est-ce qui, politiquement et historiquement, là, se joue et donne naissance à ce personnage d'activiste?
Alors, moi, je ne suis pas guatémaltèque, je suis argentine. Donc quand j'ai accepté de faire ce film, je me suis dit, tiens, moi j'ai pas trop envie de parler de moi, et en interprétant ce rôle, je vais parler de moi sans parler de moi. Parce que mes parents étant des Argentins, ils ont quitté l'Argentine quand c'était la dictature, ils ont été des militants, et ils ont fui la dictature. Mais avant de la fuir, ils se sont énormément impliqués, mais je connais pas l'histoire. Je connais pas l'histoire, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais juste que ils se sont battus, ils se sont impliqués et qu'à un moment donné, ma mère, elle avait presque le revolver sur la tempe et qu'il n'y avait pas le choix. C'était soit rester et mourir, soit partir et donner une chance aux enfants, c'est-à-dire ma petite sœur et moi. Et au Guatemala, finalement, moi, je ne la connaissais pas, l'histoire. Je suis arrivée au Guatemala et je savais qu'il y avait une dictature, comme dans presque tous les pays d'Amérique latine, mais je ne savais pas qu'elle avait été à ce point... horrible. Ils ont vraiment littéralement essayé de tuer tous les Indiens du Guatemala, de tuer tout ce qui s'apparentait à la culture indienne et d'éradiquer tout ce peuple de manière terrible.
Ça, et c'est le fond historique.
Ça, c'est le fond historique. Ouais. Et Maria se bat pour que la démocratie revienne, pour que le droit revienne, la liberté d'expression revienne, la possibilité de vivre revienne pour ces Indiens. Et voilà, ce sont les deux contextes du film.
Vous évoquez le parcours de vos parents. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de résonance entre ce film et votre vie, ou leur vie aussi. Et Maria, il y a beaucoup de résonance aussi avec, avec la vie du réalisateur. Oui. On disait que César Diaz, lui, est guatémaltèque. le dilemme de Maria, c'est qu'elle nous, elle nous apprend aussi que les enfants révolutionnaires étaient envoyés dans des ruches,
oui,
à Cuba ou à Nicaragua. Qu'est-ce que ça signifie, ça ?
Eh bien, quand on était militant, on ne pouvait pas se permettre de garder son enfant avec soi. C'est trop dangereux. Si l'enfant est kidnappé, c'est une arme évidemment trop facile pour faire parler les militants. Du coup, ils étaient envoyés à Cuba, dans des endroits, dans des appartements, où ils étaient élevés par des Cubains, des communistes, et loin de leurs parents. Mais ça, c'était tous les militants de toute l'Amérique latine. C'était pas que les Guatémaltèques. Et à la fin de la dictature, ces enfants qui avaient donc grandi pouvaient soit choisir de rentrer chez eux, soit de rester à Cuba.
Les révolutionnaires en Amérique latine et ailleurs luttent pour un monde meilleur. Mmh. C'est ce que fait Maria. Donc pour les générations futures. Mmh. Et pour autant, pas pour leurs propres enfants, on dirait.
Évidemment, on a l'impression qu'elle sacrifie sa relation. Mais c'est vrai, elle sacrifie sa relation avec son enfant.
Pour un meilleur futur,
de son enfant. Mais c'est comme ça. Et combien de personnes se sont sacrifiées pour qu'aujourd'hui on ne parle pas allemand ? Des jeunes, des vieux, des femmes mariées, des femmes avec des enfants, des hommes sans enfants. Enfin, je veux dire, oui, il faut à un moment donné un sacrifice pour pouvoir gagner quelque chose. On ne peut rien gagner sans sacrifice.
Et c'est bien de le rappeler au moment où on va peut-être parler russe.
C'est bien de le rappeler au moment, exactement. Non, mais vous savez que c'est vrai, là, on est en pleine promo, et avec César, on se rend compte que cette histoire, elle a des résonances énormes. Et surtout pour les femmes, je trouve, parce qu'on s'est quand même battues pendant des années, pour essayer d'avoir une égalité entre hommes et femmes. Et finalement, les femmes, on a voulu être autonomes, avoir la possibilité de travailler, de gagner notre vie, de faire nos choix. Et nos choix, c'est aussi de pouvoir ou non s'engager. Mais en tout cas, d'arrêter qu'on nous le dise. Mmh. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les hommes partaient à la guerre, les femmes, elles restaient à la maison. Et ben non, en fait. Si j'ai envie de partir à la guerre, je pars à la guerre. Et si l'homme a envie de rester à la maison, il reste à la maison. Et finalement, c'est de ça dont parle le film aussi. C'est de dire aux femmes, qu'elles soient mères ou pas, si tu sens que tu as envie de t'engager, c'est possible. Et il faut arrêter de faire culpabiliser les mères.
Mmh. Mmh. Il y a peut-être quelques décennies, on aurait jugé cette femme en disant qu'elle a abandonné son enfant.
Bien sûr, mais moi, je veux dire, franchement, quand je suis allée faire la campagne des Oscars, je venais d'accoucher de ma fille et j'avais dit à Michel Hazanavicius, mon mec, que j'allais rester à la maison avec notre fille puisqu'elle venait de naître et que je ne pouvais pas partir aux États-Unis faire la campagne et tout ça. Et Michel m'avait dit, mais pourquoi elle est toute petite, de toute manière, tu l'aides pas. Vaut mieux qu'elle reste à la maison avec nos parents, ses frères et sœurs. Elle sera bien. Et quand elle sera grande, elle sera fière de te voir sur les photos avec papa et l'Oscar, si jamais on le gagne. Et en fait, il m'a complètement déculpabilisée. Je suis partie aux États-Unis. On a laissé notre fille. Mais c'est moi qui ai dit, moi, j'arrête tout et je reste avec la petite. Et bien là-bas, on m'a dit, mais où est votre enfant ? Comment ça, vous n'allaitez pas ? Et pourquoi elle n'est pas là ? Et personne ne demandait ça à Michel. Et je disais, mais excusez-moi, mais Michel est le père de cet enfant et vous ne lui posez pas la question. Ça me rendait dingue. Et même sur les tournages, quand on va tourner tous les deux, je disais, nos enfants, il faut qu'ils nous suivent. Ah ouais ? Je dis, non, mais c'est les enfants du réalisateur aussi, je vous rappelle. Donc je veux dire, le combat se fait, il est là, c'est super, on a gagné des choses, mais on ne les a pas complètement gagnées. Et aujourd'hui, ce film m'a permis de me dire, mais en fait, si demain, il va falloir aller la défendre, cette paix, ce pays, ce beau pays, cette démocratie, cette laïcité, cette république. Et je disais à Michel, oh là là, mais tu vas partir ou notre fils va partir. Il me dit, mais pourquoi tu dis moi ? Pourquoi tu dis notre fils ? Et toi ? Et notre fille ? Et là, j'ai fait, mais c'est vrai, t'as raison. Je suis totalement conditionnée. T'as complètement raison. Et donc, je suis super contente que ce film sorte pour que les femmes puissent se dire, si je le ressens dans mon ventre, que j'ai envie de faire ça, que j'ai envie d'aller me battre, que ça me rend forte, que ça me rend meilleure, que ça me rend une meilleure mère, même si je ne suis pas avec moi, j'ai le droit de le faire.
César Diaz, le réalisateur, suit sa mère au Mexique à l'âge de 3 ans. C'est pile l'âge que vous avez quand vos parents quittent l'Argentine pour se réfugier en France, c'est exact.
Oui.
Ce qui a dû créer un lien entre vous déjà, j'imagine. Est-ce que vous auriez pu faire ce film s'il se passait en Argentine ? Vous disiez au début de l'interview, ça m'arrangeait que ce ne soit pas l'Argentine. Pour mettre un peu de distance.
À l'époque, ça mettait de la distance. Et je pensais que je ne l'aurais pas assumé devant mes parents. Mais mes parents ont vu le film hier.
J'allais vous poser la question.
Bah voilà.
Ouais.
Alors hier, alors... c'était une dure journée pour moi. Et
vous étiez stressée qu'ils le voient ?
Très stressée.
Que ça leur fasse remonter des
ouais.
souvenirs ?
Oui, parce que j'ai puisé beaucoup dans ma mère, en fait. Comme ma mère, elle ne me raconte rien, je me suis mise à la place de ma mère. Donc toutes les scènes, je les ai jouées comme si j'étais ma mère. Donc... même si elle n'a pas fait les mêmes choix, mais la scène dans la cabine, quand je dis au revoir à ma mère, je
cabine
me suis dit...
téléphonique, voilà. Ouais, vous savez que vous dites au revoir à votre maman.
Voilà, ouais. Et je me suis dit, mais quand ma mère a dû quitter de force l'Argentine, elle a dû dire au revoir à des personnes, à des amis, ouais. À de la famille. Elle a dû dire au revoir, ça a dû être douloureux de partir, même si c'était un pays sous une dictature. Elle a tourné le dos à tout son côté militante. Mm-hmm. Elle n'a pas pu continuer. Et puis des gens, des amis très proches sont morts. Et en jouant ces scènes-là, plusieurs scènes du film, j'ai pu ressentir ce que ma mère a pu ressentir à l'époque. J'ai pu toucher un peu du doigt. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que ma mère, elle ne veut pas me raconter. C'est que si moi, en tant qu'actrice, juste ces petites scènes, je les ressens d'une façon si violente, devoir les raconter à sa famille, les yeux dans les yeux... c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop impudique.
En fait, vous avez enfin compris en incarnant ce personnage pourquoi vos parents étaient si taiseux.
Oui.
C'est un peu la révolution dans votre tête en ce
oui,
moment.
Oui, oui, oui. Ah bah ouais. Hier, ça a été une grosse révolution ouais. parce que j'ai compris tout ça aussi hier.
Ah oui. Ouais. Et comment ont-ils réagi, vos parents, alors ? Ils vous l'ont peut-être pas dit, du coup.
Ils l'ont pas encore dit, j'ai pas encore assumé le face-à-face. Si ma mère, elle m'a juste dit... ma mère, elle est forte comme ça, elle est un peu dure, elle est un peu comme Maria. Donc elle m'a dit, c'est très bien, ma fille, c'est très dur, mais c'est bien, c'est très bien. Et mon père, il rigolait, et il disait, ah, c'est super, mais bon, c'est moi qui me coltine ta mère ce soir.
Hein. Deux façons différentes de réagir.
Ah, oui.
Il y a celle qui dit comme Maria, sigue adelante.
Voilà, exactement.
Et l'autre qui fait semblant de rigoler.
Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, là, je pars en vacances avec eux. On va pouvoir parler un
peu. Vous allez débriefer.
On va débriefer.
Ça va être intense.
Oui, ça va être intense.
Mais ouais.
Ouais.
Mais votre papa, il était réalisateur en Argentine. Mm. Il a continué à travailler dans le milieu des films en arrivant en France. Mais donc, vous avez des films peut-être d'époque, des photos que vous auriez vues. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vous cacher les choses, pas les dire ? Parce que je vous imagine insistante et posant des questions.
Mm. Alors, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à une femme qui est psy, à un dîner. Et je racontais un peu ça, comme ça. Et elle me dit, mais tu poses des questions à tes parents ? Je dis, bah, non, finalement, je ne pose pas de questions à mes parents, c'est bizarre, alors que j'en ai plein. Et elle me dit, mais c'est normal, tu n'en poses pas parce qu'ils ont tout fait pour que tu n'en poses pas. Donc, ils t'ont donné 2-3 indices, 2-3 petites histoires comme ça, que ça fait 40 ans qu'ils te racontent les mêmes histoires.
Les mêmes.
Et c'est toujours les mêmes. Et toi, tu te les... voilà. Et au final, ils ont tout fait pour que tu ne poses pas de questions. Et dernièrement, on a essayé avec mes sœurs de poser des questions. Non, j'ai rien à dire. Non. Comme ça, là, vous ne pouvez pas me voir, mais j'ai rien à dire, moi. Non.
Mais parce que vous jouez, vous l'interprétez.
Oui, je joue. Non, j'ai rien à dire, c'est passé, tout ça, ça ne vous concerne pas. L'important, hier, elle m'a quand même dit, parce qu'il y avait mes sœurs aussi, elle nous a quand même dit, finalement, ça va, vous allez bien toutes les trois. Mes deux sœurs se sont reconverties. Vous allez bien, vous avez réussi, c'est bien. Je suis contente.
Ah ouais, ça se passe comme ça. Mais oui, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a eu un peu un trauma quand même. Vous avez déjà dit, vous avez vécu jusqu'à 3 ans en Argentine. On a dû se cacher pendant quelques temps. Donc ça, vos parents vous ont quand même dit que ça avait été chaud, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais ma mère, elle a dit 2-3 trucs à mon fils hier, qu'elle avait porté des perruques. Elle a commencé à dire des petites choses comme ça. Mais bon, voilà, j'y suis ça hier, quoi.
Ouais. Mais attendez, parce que si ça se trouve, c'était aussi des militants.
J'en sais rien.
Ah, faudrait qu'on sache. Revenez nous le dire quand vous saurez après les vacances.
Ah ouais.
Bon, alors conclusion sur ce volet psychanalytique, Bérénice Bejo.
C'est pas de la psychanalyse.
Non, non.
Je partage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation, qui aimeraient savoir des choses sur leurs parents, sur le passé, sur les secrets. Et je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y en a qui vont pas parler. Hein. Et que je me suis quand même bien construite. Finalement, ça va. Oui. Et c'est vrai que mes sœurs, ça va. Donc, évidemment que c'est dur et qu'on a envie de savoir, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de savoir ? C'est inscrit en moi. Elle me l'a donné d'une certaine manière. Ce qu'elle m'a donné, ça a suffi. Et est-ce que je suis obligée d'aller remuer le couteau dans la plaie ? Vraiment ? Voilà, je vais lire sur d'autres histoires, d'autres gens qui ont réussi à savoir et qui ont appris de leurs parents. Et c'est formidable. Mais bon, je crois que moi, faut que je... je passe à autre chose, quoi.
Quelle sagesse. Mais donc, conclusion, dans ce film, vous vous identifiez davantage à Maria ou aussi un petit peu à l'enfant de Maria?
Ah non, à l'enfant de Maria. À l'enfant de Maria, oui.
La dictature de Videla, c'est cette dictature qu'ils ont fui. Lui, il est mort en 2013. Est-ce que vous vous souvenez, dans la famille, le jour soit où il a été arrêté?
Jamais de la vie.
Jamais. Et le jour où il est mort, parce que c'est en 2013. Ah non, vous n'avez pas fait une fiesta? Ah ouais?
Non.
Ah, à ce point-là?
Bah, vous m'apprenez qu'il est mort en 2013.
Ah oui, je vous le dis, bah oui.
Voilà. Non, mais je suis honnête, c'est-à-dire que... Et à chaque fois, on parle des films argentins, on ne voyait pas de films argentins. La musique, moi, je suis vraiment, vraiment française, quoi. Française, avec zéro curiosité sur ça, quoi.
C'est un pays en Amérique latine, Bérénice Bejo. Il y a une bonne équipe de foot, il y avait un Maradona, il y avait...
Je suis au courant parce que j'ai un fils maintenant, et j'ai fait un Argentin.
Ah,
ah oui, on a enfanté un Argentin avec Michel. Cet enfant boit du maté, parle argentin mieux que moi, avec l'accent porteño, qui est l'accent donc, de Buenos Aires.
En parlant de maté, on boirait pas un truc?
Mais ouais. Oh, quelle transition. Oh là là,
bah ouais, on est samedi soir. Mm-hmm. Vous buvez pas beaucoup, vous, je pense?
Je bois... Ouais. En fait, je bois mal.
Ah oui, c'est ça.
Parce que je suis un peu une petite gamine. Qui vous a dit que je buvais mal?
Vous avez dit dans une interview, si je bois deux verres, je vomis. Donc...
Pas tellement, mais j'ai vomi plusieurs fois avec Michel. Ouais, parce qu'en fait, je suis un peu comme une ado. Je suis trop contente de boire. Et genre, ouais, c'est trop sympa. Et on boit, et on boit, et on boit. Et je vomis.
Ok, c'est Bérénice binge drinking.
Ouais, voilà,
okay, c'est bon. Alors, on va prendre sans alcool. Moi, je vais commander. J'ai vu passer un Virgin Mojito fraise.
Ah, pas mal, je veux
c'est
bien.
Pas mal, ça.
Ouais.
On fait ça?
Ouais.
Allez, c'est un truc de déglingo. Allez, on y va, on commande. Et là-dessus, Djoubaka, notre programmateur musical, a programmé Lola Young, Wish You Were Dead.
Ah,
ouais. Ouais, mais vous savez, faut pas chercher des liens partout. Can you call me?
You
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Bérénice Béjot. On a commandé un Virgin Mojito fraise. De fou. Mmh. Et vous pourrez voir dès mercredi le film Mexico 86, film de César Diaz, avec aussi Matteo Labbé. Je vais vous laisser dire Leonardo Ortiz Gris.
Très bien.
Tu hablo un poquito español, pero me parece muy difícil.
Si. Si, si.
Et Julieta. Egurola.
Oui, oui.
Et on ne dit pas Bejo parce que Bejo c'est argentin et que la rota, il n'y a pas en argentin.
Si, on dit Bejo.
Ah, on dit Bejo,
ouais.
Ok, Bérénice, on se posait la
Bejo.
Question.
Ouais.
Bérénice Bejo
ouais.
Avec nous, très bien.
Mon deuxième prénom c'est Consuelo.
Mm-hmm.
Consuelo Bejo, je ne sais pas si j'aurais fait carrière.
Oh, vous croyez
mm.
C'est pour ça qu'avec Vanhoenacker, moi je ne ferais jamais rien. Bérénice Bejo, vous parlez bien sûr couramment espagnol, c'est une chose, mais jouer en espagnol, rien à voir peut-être.
Non, rien à voir.
Mm.
Surtout que moi, mon espagnol, c'est un espagnol que j'ai appris quand j'étais petite. Je ne suis pas allée à l'école, je ne l'ai pas étudié. Donc, je le parlais comme je l'entendais. Je faisais beaucoup de fautes.
Mm-hmm.
Et mon fils a voulu apprendre l'espagnol. Et il a voulu partir dans une école bilingue. Et il a appris l'espagnol. Et c'est avec lui que j'ai appris à écrire, à lire, à conjuguer.
Ah, c'est très mignon.
Oui. Et là, il m'a dit, c'est bien, maman, tu parles très bien espagnol maintenant. Ah. Alors attention.
Ah, le Virgin Mojito fraise.
J'en ai jamais bu comme ça.
Moi non plus.
La fraise.
C'est joli.
Quelle bonne idée.
Mélangez bien.
Ok.
C'est bien mélangé. D'accord.
Et allez chercher le sucre avec la paille.
On s'est aventuré dans un truc technique, Bérénice, j'ai l'impression.
Ouais, là, je...
Oula, dites donc. Bah, on va voir si c'est bon.
Bon, allez.
Là, je prends un risque. Hein. Sinon, l'émission est foutue. Foutue. Bérénice, elle se bat.
Vous voulez que je fasse un petit bruit ou pas?
Ouais, allez-y.
Genre le...
Et en 2013, meilleure interprétation féminine au Festival de Cannes pour Le Passé du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Et c'est Steven Spielberg qui prononce votre nom et qui vous remet le prix d'interprétation. Est-ce que vous repensez parfois à ce moment ?
Bah, les journalistes me font repenser à ce moment et à chaque fois que vous m'en reparlez, je me rends compte que je ne me souviens pas du tout de ce moment. Donc il faudrait vraiment qu'à un moment donné, je prenne le temps
Blackout.
D'aller voir ce moment.
Alors donc là, on doit souvent vous demander ce que vous avez ressenti et le ressenti, vous en rappelez ou pas ?
On est au blackout total.
Alors, ça, il suffit de relire vos interviews, alors Bérénice. Je vais vous dire, vous dites, alors ça, mais ça m'a intriguée, c'est pour ça que je vous pose la question, moi. Vous dites, j'étais partagée entre la joie et la tristesse. Vous vous rappelez pourquoi ?
Oui, je me souviens bien, oui. Mais ça va mieux maintenant. Mais c'est vrai que j'étais persuadée qu'Asghar aurait le prix. Parce que moi, on ne m'avait pas rappelé. Parce que Thierry Frémaux savait très bien que j'allais revenir. Il sait l'attachement que j'ai pour les réalisateurs avec qui je travaille.
Mm-hmm.
Donc, il avait appelé Asghar. Et donc, moi, j'avais dit, Asghar, tu te mets bien en bout de fil, parce que tu vas bientôt prendre un prix. Et puis, tous les prix étaient passés et il n'a pas eu de prix, donc on ne comprenait pas. Et puis, tout d'un coup, on dit mon nom. Et j'étais...
Spielberg dit votre nom.
Ah oui, voilà, donc Spielberg, pardon. On dit mon nom. Et c'est Orlando Bloom, il paraît, qui me l'a donné. C'est lui ? Je crois que c'est lui.
Ah, bonne question, j'ai pas revu les images.
Voilà, voyez.
J'aurais dû regarder.
Bah, voilà.
Ah, vous m'avez coincé.
Ouais. Et je monte sur scène et j'ai c'est complètement débile. Je m'en veux en fait aujourd'hui.
Mais attendez, si vous vous rappelez même pas si c'est effectivement Orlando Bloom qui l'a remis.
Oui, je me souviens pas. Mais ce qui est débile, c'est que j'étais tellement gênée de gagner ce prix
mm-hmm.
que j'ai appelé Asghar. Donc c'est formidable, j'ai partagé mon prix. Mais du coup, je me suis un peu effacée de ce moment, je crois.
Ouais. Ah, okay.
Et souvent, les journalistes, ils me parlent pas de ce prix. Mm-hmm. On oublie systématiquement que j'ai eu un prix à Cannes.
Il y a aussi un côté singulier chez vous en tant qu'actrice, c'est le rapport à la notoriété. Parce que quand elle survient, cette notoriété, d'après ce que je connais de vous, ce que j'ai lu, j'ai l'impression que vous ne gérez pas tout de suite.
Ah non, je ne gère pas du tout. Non, j'aime pas du tout ça. Hein. Non, mais même aujourd'hui, ça va, je gère, mais j'aime pas du tout ça. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la perte de... Bah si, vous pouvez comprendre, on vous reconnaît quand même.
Je fais de la radio, moi.
Oui, mais bon, quand même, on voit votre photo. Maintenant, en plus, la radio, c'est filmé. On voit qui vous êtes. Et la
moi,
perte...
Ça m'a pas trauma, ça n'a pas été comme... Enfin, vous êtes une star internationale, Bérénice.
Oui,
même.
Internationale.
Mais oui.
Non, mais ça m'a un peu traumatisée, oui, parce que tout d'un coup, on vous regarde tout le temps.
Et quand il faut signer des autographes, les premières fois
vous... Ah bah moi, j'engueulais les gens. C'est Michel qui allait juste derrière en disant « Elle est un peu fatiguée, je vais vous le faire pour... » Parce que lui, il était super sympa tout le temps. Et moi, je dis « Mais ouais, mais on est au restaurant, on est tous les deux, je suis au milieu d'une phrase, quoi. Le gars, il vient, il me dit « Excusez-moi, bah oui, bah je vous dérange un peu. Bah oui, vous me dérangez. Bah c'est évident, je suis en pleine conversation. » Donc j'étais... Vraiment, c'était terrible.
Et après, vous vous en voulez.
Ah ouais, je m'en voulais, mais
vous rentrez chez vous et vous dites « Mais ah, mais Michel, je suis odieuse. »
Je me disais « Mais je suis une connasse, alors que je suis pas méchante, normalement. » Mais c'était plus fort que moi. C'était, je comprenais pas. Je me disais, mais les gens se rendent pas compte qu'ils sont gênants. Et non, mais ça s'est passé maintenant. J'ai compris que c'était plus facile de sourire, dire mais bien sûr, venez, allez, on fait la photo et je renchaîne sur ma conversation.
Ça va plus vite. Hein.
Ça va
beaucoup. C'est un gain de temps.
C'est un gain,
de temps. Mais bien sûr.
Et puis vous vous couchez, vous êtes plutôt fier de vous, vous êtes sympa. Oui. Vous vous couchez pas avec la méchante, vous couchez avec la gentille.
Et j'ai retrouvé l'un des tout premiers articles vous concernant, j'ai l'impression, en tout cas, je suis allée le plus loin possible, 2004, vous êtes dans la vingtaine. Le journaliste commence par écrire, elle a des yeux revolver prêts à vous fusiller. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Est-ce que je ne vais pas annuler cette interview?
Ah oui.
Et vous, au cours de cette interview, vous avez la vingtaine. Vous dites, notamment, les grandes productions françaises, beaucoup sont mal écrites, mal réalisées. C'est de la merde.
Ouais, c'est moi, quoi.
Attendez, c'est
ma mère. Maman sort de mon corps.
C'est vrai. Après, vous dites, en France, on fout de l'argent par la fenêtre, comme ça, quand même, parce qu'on nous propose souvent de la daube. Je dis, mais vous étiez vénère.
Ouais.
Bon, on est 20 ans plus tard, il y a prescription. Vous pensiez à qui en disant ça?
J'ai aucune idée, c'était il y a trop longtemps.
Ouais. C'était pas pour ESS?
Non. ESS, c'est 2005, donc tout va bien. C'était après. Ouf, tout va bien. Non, mais parfois, je trouve qu'on va un peu trop vite en production. C'est-à-dire qu'on lance un film et le scénario n'est pas complètement abouti. C'est vrai que moi, j'aime bien creuser les personnages, j'aime bien embêter les réalisateurs, leur poser beaucoup de questions et les challenger un petit peu pour être sûr de ce qu'ils veulent et pour être sûr que quand on arrive sur le plateau, on s'amuse, mais on a déjà réglé tous les problèmes. Et donc, bon, j'étais un peu jeune, j'ai dit ça un peu maladroitement, mais...
C'est amusant de relire ça.
Ouais,
et
ouais.
Puis, ça vient aussi du fait peut-être qu'à 12 ans, vous regardez les films de Zulawski. Et puis vous regardez le film avec James Stewart, Rita Hayworth,
oui,
etc.
Bah, oui.
Il y a une certaine exigence.
Il y a une certaine petite exigence, effectivement.
Résultat, vous ne savez pas qui sont les nuls ou les bronzés à l'époque. Et vous dites, quand j'ai tourné Meilleur Espoir Féminin, j'ignorais ce qu'avaient fait Chantal Lauby et Gérard Jugnot.
Ouais.
Vous étiez bien intégrée à l'école.
mais sérieusement, parfois les potes, ils venaient à la maison. Moi, j'avais des Delvaux dans ma chambre. Donc des femmes à poil dans ma chambre. Belge, non? Delvaux, je crois.
Oui, c'est pour ça que je précise, pour les Belges, pas des sacs, hein, donc le peintre.
Oui,
hein, parce qu'il y a aussi Delvaux qui a la maroquinerie
oui,
belge.
Oui, c'est vrai que...
J'avais pas des sacs au plafond.
Des Magritte, des reproductions, évidemment, pas des originaux. Et du coup, j'avais pas Brad Pitt, j'avais pas ça. J'étais un peu bizarre, quoi. C'était complètement assumé, et donc c'est vrai, je regardais pas Nulle Part Ailleurs, parce que c'était le samedi soir, je crois, Nulle Part Ailleurs. Je m'en rappelle même pas. Parce que...
C'était pas tous les jours?
Bah peut-être,
je
vous voyez.
Crois, hein.
Ah bah c'était peut-être tous les jours. Non mais moi je...
C'est un monsieur qui s'appelle Antoine de Caunes. Je vous le présenterai.
J'ai fait son émission tout à l'heure. Non mais et c'est vrai que j'étais un peu en décalage. Mais bon, c'est pas grave.
Pas de trauma.
Non.
Et pour autant, vous avez joué assez récemment dans le film français le plus vu de tous les temps sur Netflix. Sous la scène. Et donc il y a un autre public vous a découvert à cette occasion.
Les jeunes.
Ah ouais.
Bah ouais. Non mais les jeunes, ça y est, ils sont raides dingues de moi. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir.
Ah ouais.
Ils viennent me prendre en photo. Ouais madame, vous allez faire la suite. J'adore. Allez et madame, wesh, trop bien. Ouais, ces petites choses là comme ça.
Vos enfants sont contents aussi alors.
Ouais. Enfants sont très contents.
Après, faut vous figurer que les enfants qui regardent Zulawski, ils ne savent pas qui vous êtes. Hein.
Ah non, pas du tout. Non, ça c'est sûr. Non, mais bon, il n'y a plus beaucoup d'enfants qui regardent le ski, je pense.
Alors, emmener ce jeune public vers un film comme Mexico 86, oui. C'est un enjeu culturel, là.
Alors, vous savez quoi? Ma fille, hier, elle me dit, tu sais, maman, je suis allée regarder sur les forums, et il y a la bande-annonce de ton film, et tu sais, dans les commentaires, il y a des gens qui mettent, hey, wesh, mais c'est pas la meuf de Sous la scène? Mais si, j'adore cette actrice. Oh, trop bien, je la connais pas, je vais aller voir ce film et tout. Donc, peut-être que grâce à Sous la scène, Mexico va faire peut-être, je sais pas, 90 millions de spectateurs.
Ce serait formidable.
Ce serait extraordinaire.
Bah ouais. Et puis un Oscar, et puis c'est parti,
ah
quoi.
Bah oui.
Mais bien sûr. Bérénice Bejo, adolescente aussi, vous jouez dans des courts-métrages. Et je suis tombée sur le titre d'un court-métrage en 96. Enceinte ou lesbienne, point d'interrogation.
Enceinte ou lesbienne, mais
ouais. Mais vous étiez woke.
Bah ouais, hein. Mais c'était à l'époque où on essayait un petit peu de dire, voilà, on a le droit d'être lesbienne, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut faire son coming out.
Aujourd'hui, c'est presque mainstream, ce genre de film, mais à l'époque, quand même, c'est...
Aujourd'hui, c'est, viens, on raconte l'histoire d'un hétéro, quoi. Oh, blanc, de 40 ans, mais s'il te plaît.
Quelle originalité. Cette minorité qui souffre aujourd'hui, mais bien sûr.
Ouais. Oui, il y a des plumes à la fin. Oui, c'est ça. J'ai un faux oreiller dans mon ventre, dans mon t-shirt, et je dis à mes parents... Je suis enceinte, vous préférez que je sois enceinte ou lesbienne? Et mes parents me regardent genre... Et je sors l'oreiller, et toutes les plumes volent, et je dis, lesbienne.
Ah, magique,
ouais.
Il faut qu'on retrouve ce film, ouais. Absolument. On arrive tout doucement au terme de cette interview. Je voudrais reparler un mot politique avec vous, parce que c'est un film qui mêle l'intime et le politique, hein, Mexico 86. Moi, j'adore ça, je vous conseille chaleureusement ce film. Et de l'exil de vos parents, vous gardez une révolte contre les régimes dictatoriaux. En ce moment, en matière de régime autoritaire, on est servi, et notamment en Argentine. Quel est le rôle du cinéma, vous pensez, au milieu de tout ce souffle populiste et autoritaire ?
Je ne pense pas que le cinéma puisse changer le monde, je ne suis pas naïve. Mais je pense qu'il peut apporter des possibilités, des rêves, des histoires, des possibles, ouais, c'est ça. Et je pense que si on peut rêver, si on a encore le droit de rêver, alors on peut changer le monde. Et je dis ça parce que vraiment, je vois mes neveux qui habitent en Argentine, qui ont le même âge que mes enfants, ils ne rêvent pas, ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de possibilités, ils le savent. Ils vivent avec l'inflation, avec des problèmes d'argent, et ils n'ont pas de rêve. Ma nièce de 16 ans, qui dessine super bien, elle m'a dit « Oh, bah, je vais faire des petits bracelets brésiliens, j'irai les vendre sur la place. » Mon neveu, qui aimerait être pilote d'avion, je lui dis « Mais attends, mais c'est génial, mais tu as 15 ans, tu sais qu'il faut t'y mettre maintenant, tes études et tout. » Moi, ouais, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que c'est des rêves auxquels ils croient même pas, ou c'est impossible. Évidemment qu'en France, il y a plein de jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas... évidemment, je ne suis pas naïve, le monde est difficile partout. Mais en Argentine, ce n'est pas une petite minorité. C'est une grande majorité de gens qui vivent mal.
C'est-à-dire que c'est l'avenir du pays qui est... Oui. C'est les jeunes, quoi.
Oui.
Waouh.
Et du coup, je me dis qu'un film, un livre peut vraiment... permettre aux gens de réfléchir, aux jeunes de se dire « Ah, oh, mais j'y avais pas pensé. Ah, il se passe ça là-bas. Il se passe ça ici. Ah, tiens, c'est marrant, j'aurais pas pensé que j'aurais pu faire ça. » Et qu'en faisant ça, je peux changer quelque chose. Donc je me dis juste que ça peut donner des envies, créer des désirs.
Comme l'autoritarisme souffle aussi vers nos contrées, Bérénice Bejo, c'est une question un peu difficile peut-être pour une enfant d'exilée, mais j'ai choisi de vous la poser. Si vous deviez choisir un pays pour vous exiler, vous...
Non, mais moi, je ne m'exilerai pas.
Non ?
Non.
Ah oui ?
Non, moi, je reste ici. Je reste ici, d'abord, c'est le plus beau pays au monde, pour le moment, où il y a le plus de liberté, de droits, vraiment, il y a la laïcité. Pour le moment, on n'y est pas trop mal, et je me battrai pour que ça reste comme ça. Je vois pas où je pourrais aller. D'abord, culturellement, je ne pourrais pas aller dans un pays qui soit trop, trop différent. Je ne pourrais pas aller en Asie, c'est trop différent de moi. Puis c'est pas forcément mieux. Donc je crois que je resterai ici, puis je me battrai ici.
Waouh. Parce que moi j'avais mis des options. Hein.
Bon, c'était quoi vos options?
La Belgique déjà. Bon. Après bon.
Ouais, il fait moche en Belgique. Hein. Et j'adore. Hein.
Je sais.
D'ailleurs sous la scène on l'a tourné en Belgique. Franchement j'ai adoré. Hein. Mais il fait moche quand même chez vous.
Mais du coup les gens vont au cinéma.
Ouais.
Bah oui.
Bah 60 000 entrées, c'est un énorme succès, vous me l'avez
oui,
dit tout à l'heure.
Un carton en Belgique, c'est 60 000 entrées.
Non, mais ceci dit, c'est vrai qu'en Belgique, on est. Bon, mais c'est bon, pareil.
Sinon j'ai le Mexique, qui est dirigé par une femme scientifique, climatologue, oui. Claudia Sheinbaum.
Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais bien. Mais vous avez été au Mexique
Alors, avant Claudia Sheinbaum, j'avoue. Et ouais, c'est chaud.
C'est chaud quand même.
C'est chaud, ouais. Là, elle a du boulot.
Ouais.
Elle a beaucoup de boulot, c'est vrai. Tiens, on va terminer par une question banquette, je dirais. Parce qu'on est dans un bistrot, c'est comme ça que j'appelle ma question psychanalyste de comptoir.
Ok, vas-y.
Donc en arrivant en France, comme quasi tous les exilés, vos parents ont subi un déclassement professionnel. Aujourd'hui, vous êtes une actrice d'envergure internationale, donc vous êtes au top du surclassement, vous. Donc il y a un peu la revancha del tango, comme dirait Gotham
ouais.
Project.
Ouais, mais vous savez, quand on a été naturalisé, ça c'est une histoire rigolote que m'a raconté ma mère, c'était en 96. On a été naturalisés, on nous a reçus à Versailles, parce qu'on habitait dans les Yvelines.
Ouais.
Et ma mère a été reçue dans une grande pièce. On lui a demandé comment elle allait, on lui a servi un thé, on l'a félicitée d'être française. C'était un moment vraiment où on partageait, on accueillait. Et elle me dit aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est-à-dire qu'il faudrait réapprendre à accueillir les gens. Il ne faut pas juste le dire, il faut vraiment bien les accueillir. Alors, peut-être pas avec la petite tasse de thé, on n'a pas forcément le temps. Mais quand ma mère, elle m'a dit ça, je dis attends, ils t'ont offert le thé, tu t'es assis dans un fauteuil et la meuf, elle a papoté avec toi parce que tu étais naturalisée et que toute la famille était naturalisée.
Ça, c'est les années 90.
Ouais, 96 exactement. Imaginez.
Wow. C'est hier.
C'est hier.
Ouais.
Ouais.
Voilà. Bérénice Bejo, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et bon débrief avec les parents pendant les vacances.
Ouais,
alors,
ça va être super.
Débrief de ce film que je vous recommande tellement. Mexico 86 de César Diaz à l'affiche mercredi prochain.
Merci voilà. beaucoup.
Je vous remercie. Et voilà, ce numéro de Bistroscopie, c'est terminado. Vous pouvez écouter les précédents sur l'application Radio France. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, Romain Luquin à la technique, Gilles Gaillard au mixage et merci à Noémie Boncourt à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 avec celle qu'on appelle la bête noire des dictatures, Agnès Callamard, ex-enquêtrice à l'ONU.